VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mardi 20 septembre 2022. Bonjour à toutes et à tous, en direct de Washington, Idrissa Seloudia. Tout d'abord, les titres. Le débat à l'Assemblée générale de l'ONU s'ouvre aujourd'hui à New York. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zen, démissionne en plein dialogue de réconciliation nationale. Au Burkina Faso, ouverture hier du procès de l'assassinat de l'étudiant Boukari Dabo en 1990, en présence des principaux accusés, dont le général Gilbert Diendéré. La Banque mondiale appelle les pays du Sahel à diversifier leurs économies afin de limiter l'impact du changement climatique. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Ici aux États-Unis, début ce matin à New York du débat à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Cette édition est placée sous le thème de la solidarité, du développement durable et des sciences. Pour davantage de précision, retrouvons Dili Diko, notre correspondante à New York.
Le débat annuel de l'Assemblée générale des Nations unies débute ce matin. Plusieurs présidents vont prendre la parole. Joe Biden va aborder le changement climatique et le multilatéralisme. Un autre sujet sur lequel le président américain est très attendu est le conflit en Ukraine. Le président Félix Tshisekedi de la République démocratique du Congo doit s'exprimer aussi, puis le président centrafricain Faustin Archange Touadéra. Certains dirigeants africains n'ont pas fait le déplacement. Leurs discours préenregistrés seront diffusés à l'ONU, dont celui du président égyptien Abdel Fattah al-Sissi et le rwandais Paul Kagame. En marge de l'Assemblée onusienne, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken doit être reçu par le président nigérien Mohamed Bazoum. Washington promet 9 millions de dollars d'aide à Niamey pour les effets du Covid, du climat et de l'invasion russe en Ukraine. Enfin, Linda Thomas-Greenfield, représentante des États-Unis à l'ONU, a rencontré hier Louise Mushikiwabo, secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. Elles ont discuté des possibilités de coopération pour reconstruire la paix au Sahel, en Afrique centrale et en Haïti, et promouvoir la sécurité alimentaire dans le monde.
Précisons que le secrétaire d'État Blinken s'est entretenu hier à New York avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Les deux hommes ont souligné l'importance du leadership du Niger dans la gouvernance et les efforts de réponse aux défis sécuritaires. Ils ont aussi discuté des efforts collectifs pour faire face à l'insécurité alimentaire et souligné que la coopération bilatérale est essentielle pour faire avancer nos intérêts communs dans la paix, la sécurité et la prospérité au Niger et dans la région, a dit le porte-parole Ned Price. Le chef de la diplomatie tchadienne, Chérif Mahamat Zen, annonce sa démission en accusant la junte militaire de le reléguer à un rôle de figurant. Cette annonce survient au beau milieu d'un dialogue national très laborieux. Les détails avec Nani Talani.
Depuis quelques mois, mon engagement et ma volonté de servir mon pays se trouvent contrariés par les initiatives et actions parallèles de certains membres de votre cabinet et du gouvernement, entreprises à mon insu et sur vos instructions, écrit le ministre des Affaires étrangères, Chérif Mahamat Zené, dans sa lettre de démission adressée au général Mahamat Idriss Déby Itno, président du Conseil militaire de transition. Chérif Mahamat Zené, 58 ans, diplomate de carrière, a été le principal négociateur du pouvoir dans les longues tractations qui ont abouti le 8 août à un accord de paix à Doha avec plusieurs mouvements rebelles. Ce pacte a permis d'associer une partie des groupes armés au dialogue national inclusif et souverain, ouvert il y a un mois à N'Djamena, et censé déboucher sur des élections libres et démocratiques.
Au Burkina Faso, le procès de l'assassinat en 1990 de Boukari Dabo, un leader syndical étudiant, s'est ouvert hier à Ouagadougou en présence des principaux accusés, dont le général Gilbert Diendéré. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Les trois accusés sont poursuivis pour, entre autres, complicité d'arrestation illégale et séquestration aggravée, complicité de coups et blessures ayant entraîné la mort sans intention de la donner et recel de cadavres. Parmi eux, le général Gilbert Diendéré, déjà condamné à la perpétuité pour son rôle dans l'assassinat de l'ex-président Thomas Sankara et 12 de ses compagnons en 1987. Il est accusé d'avoir ordonné l'enlèvement du cadavre et son inhumation et devrait être appelé à la barre ce mardi. Le colonel Mamadou Bamba était aussi dans le box des accusés. Il aurait indiqué quels étudiants devraient être arrêtés. Il a plaidé non coupable. Le troisième, le sergent Magloire Yougbaré, ne s'est pas présenté au procès et sera jugé par contumace. Il est accusé d'avoir conduit le véhicule transportant le corps de l'étudiant. Leader de l'Association nationale des étudiants burkinabés, à la pointe des manifestations contre le pouvoir de Blaise Compaoré dans les années 1990, Boukari Dabo, étudiant en 7e année de médecine, avait été enlevé le 19 mai 1990 par des hommes armés. Il avait ensuite été conduit dans les locaux du camp de l'ex-régiment de sécurité présidentielle, où il a été torturé à mort, puis inhumé à Pau, à 150 km de Ouagadougou. Plus de 32 ans après les faits, ce procès est censé se terminer demain mercredi.
La Banque mondiale a exhorté les pays du Sahel à accélérer les réformes structurelles pour diversifier leurs économies afin de limiter l'impact du changement climatique dans cette région d'Afrique parmi les plus vulnérables au monde. C'est ce qu'elle recommande dans un rapport publié lundi. Michel Joseph.
Le changement climatique accentue les tensions dans les pays du Sahel. La région est l'une des plus vulnérables au monde aux sécheresses extrêmes, aux inondations, vagues de chaleur et autres impacts liés au changement climatique, mettons en garde dans ce rapport. La région pourrait connaître une augmentation des températures de 2 degrés d'ici 2040, selon l'institution internationale. Elle ajoute que d'ici 2050, le PIB annuel du Niger pourrait baisser de 11,9% et celui du Burkina Faso de 6,8%, selon des scénarios pessimistes de faibles précipitations. Mais le rapport qui montre que les besoins de financement des 5 pays sahéliens, Mali, Niger, Burkina, Tchad, Mauritanie, en matière d'action climatique, se chiffre à plus de 30 milliards de dollars, assure que les dégâts causés par le changement climatique peuvent être significativement réduits. Ce rapport fournit une feuille de route pour aider les pays à accélérer les réformes et les investissements afin de diversifier leur économie et les rendre plus résilientes et plus inclusives, explique Clara Dessoussa, une responsable de la Banque mondiale.
La Guinée équatoriale a aboli la peine de mort lundi en vertu d'une loi promulguée par le président Teodoro Obiang-Nguema au pouvoir depuis plus de 43 ans dans ce petit pays pétrolier parmi les plus fermés et aux régimes les plus autoritaires au monde. La dernière exécution officielle dans le pays remonte à 2014 selon Amnesty International, mais le régime est régulièrement accusé d'exactions par les ONG internationales. Des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité ont probablement été commis durant le conflit qui déchire l'Éthiopie depuis fin 2020, souligne une commission de 3 experts dans un rapport destiné au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Elle se dit, cette commission, profondément troublée, entre autres, par une profonde polarisation et haine entre ethnies en Éthiopie, ce qui crée un cycle inquiétant de violence extrême à laquelle répondent des représailles et augmentant encore le risque imminent de nouvelles atrocités encore plus graves. Sollicité par l'AFP, le gouvernement fédéral n'a pas réagi dans l'immédiat.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le Kremlin a qualifié lundi de mensonge la découverte de centaines de tombes dans une forêt près de la ville d'Izioum, récemment reprise par les forces ukrainiennes. Dernière dénégation russe en date quant à des exactions. La découverte de ces tombes a été annoncée par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et des journalistes de l'AFP ont vu vendredi sur place des centaines de tombes marquées d'une croix et de numéros ou de nom et de date, ainsi qu'une fosse commune renfermant 17 corps de soldats ukrainiens, selon les médecins légistes. Au moins l'un des cadavres avait les mains liées avec une corde. C'est une grave violation de l'engagement important des États-Unis à ne pas soutenir l'indépendance de Taïwan, et cela envoie un mauvais signal grave de soutien aux forces séparatistes militant pour l'indépendance. C'est en ces termes qu'une porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a dénoncé lundi les propos du président américain Joe Biden, qui, dans une interview à la chaîne CBS, a assuré que les États-Unis défendraient Taïwan en cas d'intervention chinoise. La Minute Éco, Nathalie Barge.
Au Cameroun, le directeur général de la Caisse nationale de prévoyance sociale, Alain Mekouloum-Vondo, a annoncé que la cotisation sociale pour les employeurs de personnel domestique est fixée à 7 000 francs CFA par mois, soit un peu plus de 10 dollars. La plupart des employés de maison ne sont pas déclarés, donc restent inconnus du fonds public de pension. À partir du mois d'octobre, la CNPS va procéder à des contrôles pour faire respecter le paiement de cette somme forfaitaire. Selon le Fonds monétaire international, les banques en République démocratique du Congo devront porter leur capital social minimum de 30 à 50 millions de dollars en 2025. Dès 2023, il devra augmenter de 5 millions, tout comme en 2024, et il faudra ajouter 10 millions l'année suivante. Quatre banques ont des fonds propres qui dépassent déjà les 50 millions, mais sept autres ont des capitaux n'atteignant pas encore le seuil des 30 millions, ce qui pourrait difficilement attirer des investisseurs pour de nouvelles augmentations de capital. Au Kenya, environ 544 000 tonnes de marchandises ont été évacuées via le réseau ferroviaire à écartement standard en juillet 2022, soit une hausse de plus de 50% par rapport à la même période l'an dernier. 267 trains ont convoyé du blé, du riz, du sucre, de l'acier et d'autres produits entre Mombasa, Naivasha et Nairobi. Le réseau SGR a permis d'acheminer plus de 20 millions de tonnes de marchandises depuis sa mise en service en 2018.
Merci Nathalie. Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Keita Baldé, suspendu jusqu'en décembre.
L'international sénégalais a été suspendu jusqu'au 5 décembre pour une violation d'un contrôle antidopage en Italie. C'est ce qu'annonce le Spartak Moscou, son club actuel, qui précise que les faits se sont passés lorsqu'il jouait à Cagliari. Le club russe n'a pas donné de précision sur la nature de cette violation, affirmant toutefois qu'aucune substance illicite n'a été détectée dans l'échantillon testé ce jour-là. Cette suspension de Keita Baldé compromet ses chances de participer au Mondial au Qatar du 20 novembre au 18 décembre prochain. Les Lions de la Teranga, qui font partie du groupe A, joueront leur premier match le 21 novembre contre les Pays-Bas avant d'affronter le Qatar et l'Équateur.
Ahmed Moussa forfait pour la rencontre amicale contre l'Algérie.
Le Nigeria sera privé de son capitaine lors du match qui l'opposera à l'Algérie le 27 septembre. D'après son club turc de Sivasspor, Ahmed Moussa s'est fracturé le bras gauche après avoir été expulsé d'un match de championnat contre Ankara Gusu. L'attaquant nigérien a cédé sa place à la 19e minute du match. Sa blessure s'ajoute à celle de Léon Balogun et Henri Onyekuru, qui ne disputeront pas non plus cette rencontre pour cause de blessure.
La MLS enquête sur une insulte raciste présumée proférée par un joueur de DC United.
L'incident présumé s'est produit à la 59e minute de la rencontre du championnat de la Ligue nord-américaine de football, remportée par l'Inter Miami 3-2 devant DC United, un accrochage au cours duquel le grec Taxiarchis Foutas aurait traité de nègre le Jamaïcain Damien Louis, provoquant l'interruption de la rencontre par l'arbitre qui, après avoir averti les deux joueurs, s'est entretenu avec leurs entraîneurs Wayne Rooney et Phil Neville. Rooney a fait savoir qu'il sortirait Foutas pour le remplacer et a tenu son engagement dès la reprise du jeu. Après plusieurs minutes de discussion tendue, Damien Louis n'a pas voulu s'attarder, expliquant « Il y a eu une plainte, je suis sûr qu'elle sera examinée. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, a-t-il affirmé. Taxiarchis Foultas a lui nié catégoriquement avoir proféré cette insulte. La MLS a une tolérance zéro pour tout langage injurieux et offensant et nous prenons ces allégations très au sérieux, a déclaré une porte-parole de la MLS à ESPN.
Merci Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Seydoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le débat de l'Assemblée générale des Nations unies s'ouvre donc ce mardi à New York, ici aux États-Unis, avec le lancement de cette 77e session en rendez-vous annuel au Palais de Verre de Manhattan. Nombreux sont ceux qui se demandent ce qu'est l'AGNU. Pour en savoir plus sur ses objectifs et son fonctionnement, suivons les explications de Dili Diko.
Chaque année, le troisième mardi du mois de septembre, l'attention du monde se tourne vers New York alors que les dirigeants mondiaux se rendent au siège de l'ONU pour le débat annuel de l'Assemblée générale. Cette semaine est l'opportunité pour les pays puissants et moins puissants, grands et petits, de se tenir sur la scène mondiale et de parler des problèmes qui importent à leur gouvernement et à leur peuple. Ils abordent des sujets comme le changement climatique, le développement durable, le Covid ou les conflits dans leur région. C'est aussi l'occasion pour les dirigeants de se rencontrer de manière formelle et informelle à New York. L'Assemblée générale, c'est un peu comme le Parlement du monde. Chacun des 193 membres de l'ONU étant représenté par une voix. Le président de l'Assemblée change chaque année et il est élu par les membres de l'AGNU. L'Assemblée débat des problèmes soulevés, fait des recommandations au Conseil de sécurité, l'organe le plus puissant de l'ONU, et élit les membres non permanents du Conseil de sécurité. Elle a également le pouvoir de censurer les États qui violent les principes de la Charte des Nations Unies, comme en 1974, lorsqu'elle a suspendu l'Afrique du Sud en raison de l'apartheid. Ou encore en 2012, lorsque l'AGNU a dénoncé la Syrie pour les violations des droits de l'homme commises depuis le début de la guerre civile. Elle est aussi à l'origine des objectifs du millénaire pour le développement, remplacés plus tard par les objectifs de développement durable, ODD. L'une des raisons pour lesquelles l'AGNU attire autant l'attention chaque septembre est qu'elle mobilise les présidents, les premiers ministres et d'autres dirigeants mondiaux qui ont la possibilité de prononcer un discours. Normalement, les dirigeants parlent pendant environ 15 minutes. Mais il y a eu quelques exceptions notables, comme le record de Fidel Castro de 269 minutes en 1960. Enfin, alors que les dirigeants mondiaux s'expriment à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, de nombreuses réunions et rencontres diplomatiques se tiennent en marge de l'événement principal.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la 77e Assemblée générale des Nations unies, dans un contexte de crise et de défis intriqués. Washington Forum sera à New York, la capitale diplomatique mondiale, durant cette rencontre annuelle des leaders de la planète. Les crises sécuritaires, alimentaires et sanitaires, nous évoquerons leurs implications en Afrique et dans le reste du monde. Rendez-vous ce jeudi à 19h, temps universel, sur VOA Afrique et voaafrique.com.
En Afrique du Sud, Eskom, la compagnie nationale d'électricité, a mis en place son plus haut niveau de coupure de courant à l'échelle nationale afin de réduire la pression sur le réseau. Deux autres centrales électriques vieillissantes sont tombées en panne. Les Sud-Africains sont contraints de rester jusqu'à 9 heures par jour sans électricité, ce qui met à rude épreuve l'économie la plus industrialisée d'Afrique. Un reportage de Kate Bartlett à Johannesburg, le récit avec Michel Joseph.
Johannesburg a renoué avec le ronronnement des générateurs électriques. La crise énergétique est si grave que le président Cyril Ramaphosa a écourté son voyage à l'étranger pour revenir au pays et tenter de trouver des solutions aux coupures d'électricité.
M. Ramaphosa, qui était en Angleterre pour les funérailles de la reine Elisabeth, ne se rendra pas à l'Assemblée générale des Nations unies. Peu avant de rentrer, il a tenu une réunion virtuelle d'urgence avec les ministres concernés, a déclaré à la VOA son porte-parole, Vincent Magwanya.
Il voulait en outre comprendre ce qui peut être fait dans l'immédiat pour résoudre le délestage actuel qui est dévastateur pour les entreprises comme pour les ménages.
Dimanche, les responsables de la compagnie nationale d'électricité Eskom ont averti que le pays pourrait se diriger vers des stades encore plus élevés de ce que l'on appelle ici le load shedding, des coupures de courant programmées pour économiser l'énergie. La sixième étape, la plus grave observée jusqu'à présent et qui a été mise en œuvre pour la première fois en juin pendant l'hiver sud-africain, permet de couper quelque 6000 MW pour éviter l'effondrement total du réseau national. Le PDG d'Eskom, André de Ruyter, a révélé que le délestage aurait pu être porté à la phase 8, mais qu'un blackout total n'était pas un risque imminent.
Je pense que nous faisons notre mieux pour éviter un effondrement total du système. C'est pourquoi nous devons imposer le délestage.
Pour les Sud-Africains ordinaires, la vie quotidienne devient plus difficile. Pour cuisiner ou s'assurer d'avoir toujours des lampes à gaz ou des bougies lorsque les foyers sont plongés dans le noir. Pour les petites entreprises qui ne peuvent pas se permettre d'avoir des générateurs, ces coupures de courant sont simplement dévastatrices. Janet Melwa est coiffeuse dans un petit salon de Johannesburg. Il n'y a pas d'électricité pour faire fonctionner les sèche-cheveux. Conséquence, aucun client en vue. Et comme elle travaille à la commission, elle ne perçoit rien du tout.
J'ai peur qu'à cause de ce délestage, mon patron puisse un jour dire non, je ne peux plus supporter ça, on ne gagne pas assez d'argent, donc on doit fermer. C'est ce qui m'inquiète.
Et les choses sont pires à la maison, car Malwa est mère d'un jeune garçon.
Se réveiller le matin et il n'y a pas de lumière, vous vous demandez qu'est-ce qu'il va manger avant d'aller à l'école. Oui, c'est très stressant.
La crise actuelle de l'électricité est en gestation depuis une décennie. La compagnie d'électricité, à court d'argent et criblée de dettes, s'appuie sur des centrales au charbon vieillissantes et sujette souvent à des pannes. Puis, la corruption a fait le reste, selon l'analyste politique indépendant Ralph Matekka.
Le problème du délestage est que le nôtre est créé. Il s'agit de la corruption, de l'incapacité à redresser la situation et à lutter contre la corruption.
Si la crise persiste, elle fera d'énormes dégâts sur l'économie qui a été déjà durement touchée par la pandémie, avec un taux de chômage officiel de près de 34%.
Dans une dizaine de jours, élèves et écoliers reprennent le chemin des classes, une chose qui donne des soucis aux parents d'élèves et à l'administration dans les zones de conflit. Beaucoup d'écoles abritent aujourd'hui des milliers de déplacés internes qui y ont trouvé refuge. Là-bas, l'heure n'est plus au sommeil car il faut partir, mais où ? L'état débordé n'entend même plus les cris de détresse de ces gens, nous dit notre correspondant sur place. Alidou Ouenraogo.
Dans cette école en plein cœur de Dédougou, à 170 km de Bobo du Lasso, dont nous taisons le nom pour des raisons de sécurité, des enfants s'amusent devant les toilettes sous l'œil de leur mère occupée à la cuisine. Tous vont devoir libérer les salles de classe dans une semaine pour faire place aux élèves. Devant les exactions des groupes armés, Draman Yedan a quitté son Dourla natal avec toute sa famille à une vingtaine de kilomètres.
C'est une hantise, un désarroi de penser que la rentrée approche et que nous allons devoir partir. Il faut qu'on nous fasse retourner chez nous et nous trouver un autre cadre.
Bakari Dama, un autre déplacé.
Ils nous ont laissés dans les écoles, sachant que ce ne sont pas des logements. Moi, je suis ici depuis plus de 40 jours. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités.
Pour Isidore Sawadogo, qui est enseignant, l'école n'aurait pas dû être utilisée comme lieu d'accueil.
On ne peut pas loger les gens dans les écoles. C'est des choses qui devaient être prévues depuis longtemps par l'État. Mais bon, immédiatement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver des zones pour pouvoir loger ces déplacés et pouvoir ouvrir les classes.
Les parents d'élèves appellent à une solution urgente. Tout de suite et maintenant.
Si on leur dit de libérer les écoles pour les reloger, c'est un autre problème. Il faut sécuriser leur village pour qu'ils y retournent.
Ils viennent dans les écoles pour venir s'héberger. Et alors que maintenant, voici la rentrée qui arrive, où ces gens-là vont partir. Donc ça fait une crainte. Donc vraiment, si on dit qu'on ne sont pas inquiétés, vraiment, ça fait mal fort. Donc il faut forcément que l'État essaie de vraiment chercher un coin où les mettre avant que la rentrée n'arrive. Ça, c'est le rôle de l'État.
Les responsables administratifs de la région n'ont pas souhaité s'exprimer sur la question. Alidou Ouédraogo, Bobo Dioulasso pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
En Côte d'Ivoire, près de 300 jeunes des régions du Nord, après une meilleure utilisation des réseaux sociaux, ces jeunes scolarisés et déscolarisés ont bénéficié d'une formation sur le numérique pour faciliter leur insertion dans le marché du travail. Un reportage de Delphine Boïse, notre correspondante à Abidjan.
La ville de Korogwe dans le nord du pays a servi de phase pilote. Pendant les vacances scolaires dénommées vacances numériques, 300 jeunes ont été formés au e-commerce. C'est une initiative du ministre de la Communication et de l'Économie numérique, Amadou Koulibaly.
L'inclusion sociale numérique, ce vaste programme doit permettre de rendre le numérique accessible à tous les Ivoiriens. Ce programme de formation en bénéficie à tous les jeunes, même ceux qui étaient sortis du système éducatif. Pendant ces vacances, on peut dire que c'était une phase pilote. On a vu que ça marchait. Korogwe va poursuivre. Mais nous ambitionnons d'étendre ce programme à d'autres villes.
Chargé de dispenser des cours de vente en ligne et sur la pertinence de ces modules, écoutons la formatrice Woyi Negosia Minei.
On peut se faire de l'argent avec les réseaux sociaux. Il y a des personnes qui ont eu de gros marchés pour la couture à l'extérieur, tout simplement parce qu'ils présentaient les contenus de leur articles sur les réseaux sociaux. Il faut montrer aux gens que vous avez de la valeur sur les réseaux.
L'autre formateur, Emmanuel Abbé, se félicite de la possibilité pour les jeunes de se lancer dans l'entrepreneuriat au lieu de vouloir tous devenir fonctionnaires de l'État.
On ne peut pas tous être financés par l'État du Côte d'Ivoire, mais on peut tous au moins commencer par les réseaux sociaux qui sont gratuits. Il y en a d'autres qui étaient venus qui ne les pensaient même pas à vendre, mais ils ont fait sortir des idées. Alors, sortir d'ici, je vais vendre beurre de karité. D'autres ont dit, je vais vendre miel. Et c'est possible.
Mademoiselle Koulibaly Tionro Mariam, qui passe en classe de seconde C, était parmi les participants.
C'est un tableau numérique. On ne savait pas à quoi ça ressemblait. Mais nous avons pratiqué, touché à cet outil-là. Nous avons tous aujourd'hui le logiciel sur nos ordinateurs. Donc c'est grâce à cela.
C'est aussi l'avis de mademoiselle Yélu Touré, jeune déscolarisée.
La formation m'a apporté des compétences que je n'avais pas. Avant même pour pouvoir ouvrir un ordi, c'était vraiment compliqué pour moi. Maintenant, actuellement, j'arrive à développer des sites vraiment intéressants.
Cette formation permet d'ouvrir des portes selon Soro Mamadou Kipeya, un autre participant.
Ça nous ouvre des portes, en fait. Donc, actuellement, sans le numérique, on peut dire que c'est encore à l'analphabète. Donc, il peut dire que c'est à nos côtés beaucoup.
Abraham Kwasi, journaliste et spécialiste des réseaux sociaux, apporte cette précision.
Vous verrez aussi la montée en puissance de l'apprenti en ligne. En Côte d'Ivoire, il faut que ces jeunes-là soient éduqués, qu'ils soient formés aux bonnes pratiques. Et c'est eux qui doivent aller vers les consommateurs des affaires en leur donnant une information qui est adaptée donc à leurs habitudes de consommation.
Le numérique, c'est une opportunité qui permet de créer des emplois. C'est aussi une autre manière de lutter contre le chômage des jeunes. Delphine Boïse, Abidjan, VOA Afrique. Your head.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Idrissa Seloudia, à la mise en onde, Michel Joseph. À la console, Kelvin Fowler. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.